tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Gamme Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Maureen.
Salut.
Et de Dwayne.
Salut tout le monde.
Avant de commencer ce podcast, je voudrais rendre hommage à l'ancien président de Nintendo, Hiroshi Yamauchi. C'est une personne, je pense, dont on peut dire qu'elle a eu une influence décisive sur le jeu vidéo. Le jeu vidéo ne serait pas tel qu'il est aujourd'hui sans cette personne-là. Je pense qu'on peut le remercier pour tout ce qu'il a fait pour l'industrie du jeu vidéo. Donc, nous allons passer maintenant au sommaire de l'actualité. Cette semaine, nous évoquerons plusieurs projets indépendants avec Nowhere. Ensuite, deux Kickstarter, The Long Dark et Sleep. The Long Dark, qui est un jeu de survie pur, et Sleep, qui est un jeu de plateforme assez intéressant qui fait un peu penser à Garouga. Quelques petits retours sur le Tokyo Game Show avec notamment Metal Gear Solid 5 et un projet que je nommerais Deep Fail. Ça s'appelait Deep Down, mais j'ai décidé d'appeler ça Deep Fail parce que c'est tellement un epic fail ce jeu que voilà. Mais vous verrez ça tout à l'heure. On évoquera ensuite le rachat d'Atlus par Sega. Pokémon XY, qui ne sera pas totalement 3D. Nintendo, tout ça, soutient la 3D, 2DS, on commence à comprendre. Hein. Et enfin, une preview d'Incognita. Dwayne, on compte sur toi. Tu as joué au jeu, donc écoute, on va te passer sur le grill et tu vas nous donner tes impressions sur le petit dernier de Clay Entertainment. Et bien sûr, notre jeu du moment, Shadowrun Returns, qui était un Kickstarter qui avait été financé avec succès à 1 800 000 $, rien que ça. Enfin, un jeu Kickstarter très important qu'on va passer sur le grill, j'ai envie de dire. Et donc, c'est parti. Alors, Nowhere, pour vous présenter un peu, c'est très difficile, c'est un concept totalement barré. Ça a l'air révolutionnaire, mais d'un autre côté, ça a l'air tellement révolutionnaire que j'ai pas envie d'y croire.
Ouais.
Je suis très partagé, quoi, on va dire. D'un côté, il y a mon esprit rassuré qui me dit que c'est impossible de faire ce qu'ils veulent promettre avec leur budget. Et de l'autre, il y a mon esprit enthousiaste qui dit « Putain, mais c'est trop génial, il faut absolument qu'il fasse ce jeu, bordel !» Donc, pour vous présenter le jeu, Nowhere, c'est un jeu qui se passe dans un futur lointain, très lointain, où vous allez jouer une espèce de race alien. Vous jouez des espèces de créatures, en fait, qui vivent leur vie, hein, tout simplement, qui vivent en société, qui est une société qui a ses propres codes, qui a ses propres moyens de communication. La manière dont ils présentent, ça me fait un peu penser à Captain Blood, pour les vieux briscards, ils sauront de quoi je parle. Vous allez devoir appréhender la vie dans cette société, le langage dans cette société, vous allez devoir apprendre les règles de cette société, donc vous allez naître, vous allez avoir des parents, etc. Vraiment, l'idée, c'est que vous allez vivre la vie d'une créature dans un futur très lointain, dans une société très bizarre, quoi. Enfin, ça fait un peu penser, si vous voulez, j'aime bien évoquer le parallèle avec les coraux, si vous voulez. Parce qu'en fait, vous êtes une créature qui va grandir de plus en plus. Et en fait, plus elle va grandir, plus elle va effectivement grandir en taille, si vous voulez, jusqu'à devenir immense, jusqu'à avoir la taille de maison, de ville entière, ou même de mégalopole. Et en fait, c'est des créatures qui vivent à l'intérieur d'autres créatures, quoi, si vous voulez. L'idée, c'est que vraiment, plus vous allez vieillir, plus, voilà, vous allez avoir d'importance, et j'imagine qu'il y a du gameplay qui va s'ajouter à ça, parce que justement, ils évoquent, tu vois, la possibilité, par exemple, d'avoir un aspect gestion pour gérer les créatures qui vont vivre à l'intérieur de vous, quoi. Donc ça peut être pas mal. Et aussi, ils promettent des trucs totalement ouf, hein. Genre, vous allez pouvoir faire de la politique, genre, vous pourrez jouer la vie que vous voulez jouer, quoi. C'est vraiment du jeu de rôle, mais à l'extrême, quoi. Sachant qu'en plus, ça ne s'arrête pas là, parce que Nowhere, c'est un jeu, en fait, où la mort est définitive. Et pourquoi la mort est définitive? Parce que quand vous allez mourir, en fait, vous allez vous réincarner dans une autre créature, dans une timeline qui est à peu près la timeline où votre précédente créature a existé. Ce qui veut dire que, potentiellement, vous pourrez déjà faire face aux conséquences des actions qu'a créé votre ancienne créature, donc vous. Et en plus, vous pourrez peut-être même jouer un proche de votre ancienne créature. C'est-à-dire que, par exemple, vous pourrez jouer l'enfant de votre créature. Vous pourrez peut-être même jouer ses parents. Vous pourrez peut-être jouer un de ses amis. Vous pourrez peut-être même jouer son amour, l'amour de sa vie, par exemple. Tu vois, ce genre de choses. Sachant que, en plus, là où c'est encore plus fou, c'est que les mecs promettent un univers géré par une intelligence artificielle, qu'ils promettent le fait que le jeu, en fait, va mémoriser vos actions de joueur, et même si vous vous amusez à altérer l'histoire, parce que, évidemment, si vous jouez une autre créature que vous essayez de rentrer en conflit avec les actions de votre ancienne incarnation, ça va altérer l'histoire, forcément. Sauf que le jeu aura mémorisé votre comportement de joueur, en fait, et que votre ancienne créature, si vous la recroisez, elle adaptera votre comportement de joueur. Donc j'imagine que si vous jouez quelqu'un de potentiellement agressif, si vous essayez de contrecarrer ses plans, il viendra vous péter la gueule, quoi.
Le jeu où on se tue nous-mêmes. Et du coup, au niveau de l'intelligence artificielle, comment ça va se passer? Parce que c'est quand même assez énorme ce qu'ils promettent, surtout au niveau de la mémorisation en fait des patterns du joueur. Ça paraît assez fou quand même.
Alors oui, ça paraît assez fou, mais je vous recommande d'aller regarder une vidéo qui s'appelle Carl Sim, Créature. Ça date de très longtemps, hein. Ça date de la fin des années 90, hein. Ça date pas d'hier, hein. Il y a des trucs qui existent en intelligence artificielle. Le truc, c'est qu'actuellement, on ne les utilise pas dans les jeux parce que ça n'a aucun intérêt.
Oui.
Et même, j'ai envie d'évoquer des jeux qui ont déjà existé. Par exemple, je veux dire, Black and White, ça date pas d'hier.
C'est vrai.
Créature, justement, qui est un vrai jeu cette fois, avec une plupart d'intelligence artificielle, ça ne date pas d'hier. Donc, après, le seul truc, c'est que moi, j'ai quand même l'impression que là, ils promettent beaucoup. Parce que là, on est un stade au-dessus, quoi. C'est pas juste apprendre à une bestiole, entre guillemets, à chier, à prendre sa merde, à l'utiliser comme engrais pour, comme on pouvait le faire dans Black and White, tu vois. Parce que là, en plus, dans Black and White, c'est toi qui un peu lui apprenais en lui foutant des baffes, etc. Là, on parle quand même de l'étape au-dessus. On te dit qu'un univers entier va être géré par une intelligence artificielle qui va réagir à tes actions. Sachant qu'en plus derrière, on te promet donc un univers généré où il y aura une société avec ses codes, etc. Depuis le temps que je dis que j'attends des jeux où on aura une vraie putain de bonne intelligence artificielle, je vais pas cracher dessus pour une fois qu'on m'en montre un, tu vois. Surtout qu'en plus, je l'ai pas évoqué, mais la direction artistique, je la trouve purement extraordinaire sur ce jeu. Bon, comme le dit un pote à moi, ça fait très squat studio berlinois en mode trip, tu vois. Mais enfin, c'est vraiment très particulier, mais moi j'adore, tu vois. Sachant qu'en plus, tu vas pouvoir adopter la forme que tu veux pour ta créature. En plus, on te promet un aspect où, en fait, l'univers aura des secrets qu'il faudra découvrir. En fait, on te promet le jeu de rôle ultime, si tu veux. Et moi, je suis un fan de jeu de rôle, donc forcément... Alors certes, il y aura peut-être pas des statistiques, etc., mais c'est pas le sujet. On te propose vraiment d'incarner un personnage qui est l'essence même du jeu de rôle, tu vois. On te propose de vivre sa vie de sa naissance à sa mort. Et en plus, on te propose, via un système de réincarnation, d'assister aux conséquences de tes actes. Je veux dire, si ça c'est pas le pied ultime pour un amateur de jeu de rôle, je ne sais pas ce que c'est.
Tu m'étonnes.
Donc forcément, d'un côté il y a mon cerveau rationnel qui me dit que c'est juste totalement surréaliste comme projet. De l'autre, j'ai envie d'y croire parce que si ne serait-ce que même la moitié de ce qui est décrit là est vrai, mais putain, je sens que je vais passer des heures et des heures sur ce jeu, quoi. Donc Que dire si ce n'est que voilà, j'attends ça avec impatience. Ils ont lancé donc un système de financement par alpha, hein. Ils passent par le Humble Bundle pour le coup, le store du Humble Bundle. Vous savez, ils ont un petit module qu'ils mettent pour se faire payer en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un truc qui me fait peur parce que c'est très cher.
C'est très cher.
Ouais,
oui.
C'est 21$. Mais sachant que les 21$, en fait, c'est un prix, comme on voit de plus en plus sur Kickstarter, tu sais, c'est les early birds, tu vois. C'est en mode, vous êtes les premiers arrivés, donc on vous fait un prix d'amis, tu vois. Ouais. Et là, le prix d'amis, c'est 21$. Après, ça sera 35. Ouais. Et là, je me dis, ouais. Alors, ouais, le concept, il est bien, mais il est tellement risqué que je suis pas sûr que ça va marcher, quoi. Bon, moi, comme je suis un peu fou dans ma tête, que je me dis que de toute façon, le financement participatif, c'est du risque. Je prends ce risque-là, mais très honnêtement, hein, moi, je ne recommande à personne de financer ce projet-là, parce que il y a mon cerveau rationnel qui me dit que c'est juste totalement surréaliste, quoi.
C'est clair.
Donc, vous l'aurez compris, c'est un projet que je vais suivre de très, 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 très près. Dans tous les cas, s'il y a de l'avancement, parce que l'alpha est disponible, hein. Il y a déjà une alpha qui est disponible, que j'ai téléchargée, d'ailleurs, j'ai pas encore eu le temps d'y jouer, mais toute façon, l'alpha, pour le moment, il me semble que c'est juste la partie modélisation de la créature qui est disponible. Mmh. Donc, c'est pas encore un truc super abouti, quoi. En tout cas, j'essaierai de vous donner des nouvelles régulièrement. Parce que s'il commence à y avoir des indices qui montrent qu'ils produisent quelque chose d'intéressant, alors peut-être pas forcément quelque chose de fidèle à ce qu'ils promettent, ben je pense que ça vaut le coup de vous tenir au courant, quoi. Dwayne?
C'est clair que c'est un projet, comme tu l'as dit, qui est super ambitieux. Après, même moi, pour le point de vue technique, justement, ça peut être réalisable. C'est-à-dire que qu'ils vont faire quelque chose qui graphiquement sera péchu, effectivement, mais assez simple quand même. Enfin, s'ils gardent vraiment le même style. Et puis après, se concentrer vraiment sur l'IA et faire quelque chose, comme tu l'as dit, le RPG ultime. Moi, après, la feature qui est vraiment la qui me tue, c'est vraiment en fait la timeline, quoi. Le fait qu'après tu vois les conséquences de tes actions, que tu puisses jouer le fils de celui que tu as fait avant, et puis voilà, voir les conséquences avec les mêmes le même style de jeu, ça c'est vraiment quelque chose. S'ils arrivent à le faire, ça serait vraiment énorme, quoi.
Tu fais bien d'évoquer, c'est que c'est très abstrait comme graphisme en fait. C'est pas un univers dans une ville. C'est vraiment un univers qui aura sa propre identité visuelle. Et je pense que à ce niveau-là, c'est une bonne idée qu'ils ont eue, tu vois. Mais après, encore une fois, ça, bon, on spécule là-dessus. Faudra vraiment voir comment ils vont faire ça
Ah oui, c'est
concrètement.
sûr.
C'est tellement abstrait en fait que j'ai peur qu'on ait du mal à avoir des repères. Du coup, par exemple, comment tu fais pour... Alors, c'est des créatures qui vivent les unes à l'intérieur des autres. Comment tu vas faire pour appréhender un univers comme ça, quoi, en fait? Surtout quand toi, tu vas devenir une créature immense. Est-ce que tu vas continuer à avoir des relations sociales avec les autres créatures, ou est-ce que du coup, tu vas te concentrer essentiellement sur une partie gestion qui va se développer de plus en plus? Ou voilà, il y a plein de questions qui se posent comme ça. Et dans tous les cas, bon, voilà, vous l'aurez compris, c'est un projet qui intrigue en tout cas. Et même si ça tient pas à toutes ces promesses, si ça peut provoquer quelque chose d'intéressant, je pense que ça, je vous tiendrai au courant, quoi. C'est ça a un intérêt, je pense. Ok, donc on va passer à la suite, hein. On va passer à un projet Kickstarter cette fois. Alors ça, c'est un Kickstarter assez particulier. C'est un Kickstarter en mode survie et ça s'appelle The Long Dark.
Ouais, alors The Long Dark, c'est un projet Kickstarter qui a été lancé cette semaine en fait par le studio de développement canadien et indépendant qui s'appelle Interland et qui a été créé en fait avec des vétérans de l'industrie, mais ils ont des CV longs comme le bras, c'est assez hallucinant, notamment un ancien de Relic Entertainment qui a taffé sur les Warhammer 40 000 Dawn of War, on a quelqu'un qui a travaillé sur Far Cry 3, on a la scénariste des God of War, on a aussi le directeur du design de League of Legends et de Unfinished Swan, ainsi que les Sly Cooper 1 à 3. Donc voilà, on a des CV assez massifs, et je vous ai pas tout dit encore, parce que de toute façon j'ai pas envie d'être trop long, pour un jeu qui va être axé essentiellement sur la survie. Ça va être une simulation de survie dans un monde alors post-apocalyptique, mais c'est pas un post-apocalyptique tel qu'on l'entend habituellement de nos jours, c'est-à-dire avec des zombies, etc. En fait, il y a eu une catastrophe.
Une éruption solaire, en fait, tout simplement, qui
Exactement.
a désactivé tous les appareils électroniques, en fait.
Ouais. Et l'idée, c'est qu'on incarne un pilote, William Mackenzie. D'ailleurs, ça a été annoncé cette semaine. Enfin, l'acteur qui va jouer William Mackenzie, c'est Mark Meer. Alors, vous connaissez peut-être pas ce nom, mais c'est en fait celui qui donne sa voix au commandant Shepard dans Mass Effect. Donc voilà, hein, c'est pas une brêle. Et donc, on incarne William Mackenzie dans ce monde en fait inspiré du nord-ouest du Canada. Donc voilà, une grande étendue sauvage enneigée qui s'écrase en fait au début du jeu dans cet endroit, au milieu de nulle part, avec l'idée c'est qu'il doit survivre, hein, évidemment, alors qu'il entend une meute de loups se rapprocher de lui. Et il va essayer de retrouver un petit peu une trace de la civilisation humaine. Une civilisation humaine qui va être totalement confuse après cette catastrophe-là, puisque tous les appareils électroniques n'existent plus. Et du coup, on va être amené en fait à avoir une expérience de survie assez assez énorme, dans le sens où maintenant les humains font tout pour survivre et c'est un petit peu chacun pour sa peau. Du coup, le jeu vous propose en fait de soit tenter de nouer des relations avec les personnages non joueurs et prendre le risque justement de se faire backstab, soit de vivre en mode voilà, c'est la loi du plus fort. Le problème, c'est que voilà, si vous vivez avec la loi du flingue, vous pouvez très bien mourir avec la loi du flingue. Du coup, c'est on part sur une survie qui n'est pas contre des personnages qui sont stupides et décharnés, mais avec des personnages qui sont imprévisibles car humains. Et du coup, ça peut être très très intéressant. Et au niveau du gameplay, le jeu figure le changement climatique, le cycle jour-nuit, sachant qu'évidemment la nuit il fera beaucoup plus froid, et du coup la gestion de la température est extrêmement importante, puisque vous pourrez mourir de froid, donc il va falloir créer un feu, mais si vous créez un feu, évidemment les loups vont être attirés. Donc c'est voilà, on part sur quelque chose de très intéressant en termes de survie, et c'est assez rare d'avoir une expérience de survie qui se centre autour du joueur dans un monde enneigé et dans le froid, avec justement pas de menaces zombies. Et c'est ça qui m'intéresse le plus en fait, parce que moi j'aime bien avoir cette expérience en fait de la survie contre les humains ou avec les humains. Et c'est ça en fait qui, en termes de scénario, peut intéresser le plus à mon avis, sachant qu'ils parlent aussi d'une mécanique de gameplay qu'ils appellent la force de volonté. L'idée, c'est que votre personnage peut être déprimé au bout d'un moment dans cette situation-là, et ça va impacter en fait ses capacités en jeu. Et ils ont un système de donc ce système de volonté qui fait que si vous regardez un objet de vos souvenirs matérialisé par une photo, vous allez reprendre un petit peu du poil de la bête, et du coup être capable de réaliser des actions comme d'habitude, ou voire même des actions plus intéressantes dans le jeu, sachant que cette photo là plus vous l'utilisez, plus elle va se détériorer en fait. Donc il va vraiment falloir faire attention à pas utiliser cette mécanique de gameplay trop souvent, parce qu'au bout d'un moment vous pourrez plus tout simplement la mettre en place. Voilà.
Dwayne.
Oui, c'est clair que le projet a l'air super intéressant. Donc déjà des CV béton, ensuite l'ambiance. Bon, moi en plus ça me rappelle l'ambiance d'un de mes films préférés, donc qui est The Grey avec Liam Neeson, donc le territoire, oui, des loups en français.
En français.
C'est voilà, une super ambiance, justement comme tu l'as dit, de la survie qui se base sur l'interaction humaine, un peu comme The Walking Dead mais sans les zombies, donc okay. Donc ça devrait être super intéressant. Et ensuite voilà, c'est déjà l'ambiance a l'air super bonne, donc voilà, la survie avec les relations humaines, les CV, donc tout ça n'augure que du bon pour la suite. Le tien.
Je voudrais juste poser une question à Mordren, parce que j'aime bien titiller là où ça fait mal. Mon très cher Mordren, je me souviens qu'à plusieurs reprises tu as évoqué le fait que tu étais assez agacé par tous ces Kickstarter qui concrètement montraient beaucoup de CV mais au final ne montraient pas grand chose.
On est d'accord.
Et je voudrais quand même juste lever le doigt pour te souligner que certes c'est très intéressant tout ce dont ils parlent, mais fondamentalement ils ne montrent rien. Donc pourquoi tu es si enthousiaste?
Pourquoi je suis si enthousiaste? Parce que vous savez que mon péché mignon, c'est un peu les jeux de survie, et que souvent en fait quand je parle de ces jeux-là, c'est que bon, fondamentalement c'est des jeux qui font rêver, mais c'est des jeux à système assez classique. Et là pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ce jeu peut apporter quelque chose aux jeux de survie. Et c'est pour ça, enfin moi, j'ai vraiment l'impression que au fur et à mesure de la campagne Kickstarter, en fait, ils vont montrer des trucs. Parce qu'il y a des updates en fait journaliers sur leur Kickstarter qui détaillent le gameplay, etc. Ils ont vraiment l'impression d'être proches. Enfin, ils donnent vraiment l'impression d'être proches des fans. Et du coup, c'est ça qui me. Enfin, si tu veux, déjà le concept de base me paraît génial. Et donc avec l'espèce de proximité qu'ils mettent en place en fait avec les backers, j'ai l'impression que ça peut donner quelque chose de vraiment bien. Après, on est d'accord, hein, c'est exactement le même principe que je décris régulièrement. Fondamentalement, on voit pas le jeu, hein, et encore, on voit des artworks. Du coup, on sait même pas si ça sera la patte graphique du jeu ou si c'est juste des artworks. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué de se donner une idée de ce qui sera finalement dans le jeu. Après, bon, c'est un petit peu comme ce que tu viens de dire avec Nowhere. Fondamentalement, Nowhere, on voit pas le jeu, mais le concept paraît tellement énorme que.
Je suis d'accord, mais Nowhere, il y a déjà un prototype, tu vois. Alors oui, que là, il y a rien de rien. Enfin, non, mais après, tu me connais suffisamment pour savoir que moi, en fait, je m'en fous. Hein. Oui. Fondamentalement, qu'il montre rien, c'est juste que j'aime bien souligner là où ça fait mal.
Non, mais voilà. T'as raison.
Le truc, c'est que, alors moi, par contre, ce qui me convainc plus par rapport aux autres projets, c'est que justement, dans les autres projets qu'on a pu évoquer de ce calibre-là, en général, c'est une idée très vague qu'on a. Alors que là, justement, ce qui me convainc plus par rapport à ces projets-là, c'est que on a vraiment le sentiment qu'ils ont une idée très précise de là où ils veulent aller, en fait.
Oui.
Et j'ai pas cette impression aussi que j'ai pu avoir avec Project Phoenix, qu'on essaye de vendre un Kickstarter pas cher, alors qu'en fait, on en vend 1 million, tu vois. Il y a aussi ce truc-là. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont une idée très précise de là où ils veulent aller, qu'ils ont une idée très précise de la direction où ils veulent aller en termes artistiques, parce que, mine de rien, même si on a que des artworks, je veux dire, il y a quand même une superbe musique qui accompagne la présentation du projet. Tous les artworks qui sont présentés, il y a une certaine impression d'unité quand même qui se dégage, je trouve, du truc.
C'est vrai.
Et ça me donne pas le sentiment, tu sais, d'être des artworks qu'on pourrait pas intégrer à un jeu, tu vois. Comme on peut en voir souvent sur certains projets où t'as des trucs super beaux, mais tu dis ouais, c'est super beau, sauf que ça, on le verra jamais dans le jeu, quoi. Donc
c'est clair.
Voilà. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils savent où ils vont aller. Ça me paraît très intéressant. Après, bon, il y a encore une fois des questions qui se posent, notamment en termes d'IA. Là aussi, à mon avis, il va y avoir du challenge là-dessus. Hein. À moins que ça soit supra scripté, je sais pas comment ils vont gérer ça. Ça me paraît curieux, mais il faut voir, quoi.
Ouais, sachant que tu parlais de la bande originale derrière, il y a aussi une bande son qui dont ils mettent des extraits en fait dans la page Kickstarter, et c'est juste impressionnant l'ambiance qu'ils arrivent à mettre en place, parce que le directeur en fait de l'audio du jeu nous parle en fait du fait que on se rend pas compte quand on vit dans une ville du nombre de sons qui nous agressent en fait, et quand on est jeté dans une forêt par exemple, on découvre plein de nouveaux sons, comme je sais pas moi, l'écorce qui craque, les oiseaux qui chantent, etc. Et il parle vraiment du fait que l'audio sera mis au service du gameplay, dans le sens où au niveau de la vie sauvage et au niveau de la faune, par exemple, si un oiseau se met à hurler, on se dit ah, il y a peut-être un prédateur quelque part, et du coup ça pourra potentiellement faire quelque chose en fait en termes de gameplay et nous donner des indications. Donc ce qui fait que c'est quelque chose d'assez intéressant, je pense, au niveau de cette expérience en fait de la survie, parce que la plupart du temps on va être seul dans cette contrée sauvage, et du coup ça permet aussi d'avoir des informations à ce niveau-là. Donc comme tu le disais, ils ont vraiment une idée très très précise des features de gameplay qu'ils veulent mettre en place. Et très franchement, moi, ça me fait envie, donc je pense que je vais backer, très honnêtement. À savoir que je l'ai pas dit, mais c'est donc un Kickstarter canadien, du coup, c'est en dollars canadiens, ils en demandent 200 000. Pour le moment, ils en sont à 67 000, et ils ont encore 24 jours de campagne, et le premier stade de financement, c'est 15 dollars canadiens, soit 10 euros. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Après, encore une fois, c'est à vos risques et périls, vous n'avez pas encore vu le jeu, donc ça, on peut encore attendre un petit peu qu'il montre quelque chose d'un petit peu plus concret. En tout cas, moi, ça y est, je vais me décider, en tout cas, avec The Long Dark.
Ouais, justement, à propos de concret, là, on va parler de Sleep, maintenant. Mm-hmm. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le concept de ce jeu de plateforme qui rappelle pas mal Ikaruga par certains aspects?
Oui, concrètement, c'est le concept d'Ikaruga, vous savez, c'est les deux couleurs, en fait, donc bleu-rouge dans Ikaruga, où vous interchangez, en fait, pour survivre à certains tirs bleus, où il fallait que vous vous mettiez en bleu, etc., et vice-versa. Là, c'est exactement la même chose, mais sur un jeu de plateforme, donc en side-scroller, qui est très péchu et assez rapide, puisque il vous demande, en fait, d'avancer continuellement. Sinon vous mourrez tout simplement. Et l'idée c'est que voilà, vous avez un petit personnage, ça ressemble un petit peu à Bitrepreneur, hein, dans l'esprit visuel.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est ça fait beaucoup plus penser à un runner game qu'à un pur jeu de plateforme, si tu veux, quoi.
Complètement. C'est-à-dire qu'il faut absolument continuer à avancer, sinon c'est le décès assuré. Avec en plus de ça la feature de gameplay qui vous force à changer continuellement la forme de votre personnage, sinon en fait vous allez mourir parce qu'il y a des obstacles en fait de couleur à chaque fois qui vous demandent en fait de changer la couleur de votre personnage. Donc soit devenir bleu pour éviter les projectiles bleus et rouges, etc.
C'est pas tellement pour éviter. Enfin, s'il y a des obstacles, mais il y a aussi des plateformes.
Exactement.
C'est ça la différence par rapport à un autre jeu qui utilisait le même principe, qui était un jeu d'Ubisoft, où là, c'était beaucoup plus, justement, ça faisait beaucoup plus Ikaruga, parce que justement, là, c'était aussi les projectiles. Alors que là, il y a vraiment un aspect plateforme. C'est-à-dire que si tu sautes sur une plateforme rouge, il faut que tu sois en rouge. Si tu sautes sur une plateforme bleue, il faut que tu sois en bleu. Donc, il faut avoir des réflexes de malade mentaux. Sachant qu'en plus il y a des murs, donc pour éviter un mur, il faut que tu te remettes brièvement dans la couleur inverse et puis que tu te remettes ensuite dans l'autre couleur pour réatterrir sur la plateforme. Ça a l'air très bien pensé, je trouve.
C'est un truc de fou. Moi, je pense que c'est le genre de jeu qui vous demande des réflexes absolument monstrueux et d'avoir une dextérité aussi simplement vous y arriverez pas, hein, parce que c'est rapide et ça vous force absolument à être d'une dextérité sans borne, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Du coup moi ça me fait rêver, vous savez que j'adore les jeux de plateforme et ça me fait miroiter en fait un jeu un peu difficile, parce que rapide et compliqué par certains aspects, parce que j'imagine que ce qu'on voit là, c'est pas forcément les niveaux les plus difficiles. Alors j'imagine avec un esprit pervers du développeur, je suis persuadé qu'on peut arriver avec des niveaux finaux qui sont absolument horribles, mais justement tellement gratifiants quand vous avez réussi à terminer le niveau.
Dwayne.
Ouais, c'est vrai que le concept a l'air super sympa. Après, c'est vrai que ça fait un peu penser à Outland, ouais, du Ubisoft. Après, il y avait quelques plateformes tout de même dans Outland où on utilisait, mais c'était vraiment lent, c'était pas un super jeu, en fait. Et là, c'est vrai que ça a l'air pas mal. Il y a le côté assez rapide d'un Bitrepreneur ou d'un Super Meat Boy, avec justement cet aspect changement de couleur. Donc par contre, Mordrin, est-ce que tu sais de quel c'est avec un bouton en fait qu'on change de couleur, ou il faut
j'imagine bien que c'est avec un bouton. Alors j'ai l'impression que ça se joue plus au pad qu'au clavier, hein, très honnêtement, vu ce que je vois, mais oui, je pense que il va falloir changer de couleur avec un bouton. Ça me paraît un petit peu comme Outland à l'époque, hein, c'était les boutons de les bumpers en fait sur Xbox 360. Ouais. Donc je pense que ça sera exactement le même principe de ce côté-là.
Donc ils demandent combien, ces gens-là?
Ils demandent $15,000, ils en sont déjà à 6,000, ils vont évidemment y arriver, hein, ils ont encore 25 jours attiré, donc c'est dans très bonne voie.
Bon, en même temps, vu le prototype, ça paraît mérité, hein, je pense que vous serez d'accord.
Oui, tu m'étonnes.
Juste peut-être, moi, le seul truc qui me dérange un peu, entre guillemets, c'est la direction artistique qui est juste inexistante, je trouve, mais voilà.
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de patte assez personnelle. C'est de temps en temps, t'as l'impression d'être dans Bitripreneur, de temps en temps, t'as l'impression d'être dans Super Meat Boy. C'est un peu entre deux eaux. Après, fondamentalement, ce qui nous intéresse là, c'est vraiment le
gameplay du jeu, enfin,
le gameplay, quoi.
C'était juste vraiment pour faire genre, on est critique, tu vois, Game Info.
Hein.
Game Info indépendant.
Alors, attention, pour le nombre de niveaux qui seront dans le jeu pour le moment, hein, avec 15 000 dollars de financement, il y en aura 12, sachant que 8 sont déjà réalisés. Il y aura des mini-boss aussi et des boss. Donc voilà, c'est attention, hein, c'est pas non plus le jeu qui vous proposera une durée de vie absolument énorme, parce que pour l'instant, avec 15 000 dollars de financement, on n'aura accès qu'à 12 niveaux plus des mini-boss et des boss. Donc ne vous mettez pas en tête que ça sera un jeu de plateforme à 15 heures de jeu.
Hein. En même temps, c'est un runner game. Hein.
Bien sûr.
Même Bitripreneur, il me semble pas qu'il ait une durée de vie de ouf.
Bitripreneur, c'est très court. Voilà. Ouais.
C'est sur la rejouabilité du titre, sur le
exactement.
Time attack, qui fera la différence, quoi. Et c'est sur ça qu'il faudra l'attendre, je pense.
Voilà, évidemment, s'il y a des stretch goals en plus derrière, ça pourra être amené à augmenter, mais en tout cas, dans l'état actuel, ça sera 12 niveaux.
Ok. Le Tokyo Game Show. Alors, comment vous dire? En gros, à part l'annonce du nouveau Graffiti Rush, qui peut-être me fera craquer pour une Vita.
C'est même du teasing en plus, hein, c'est même pas une annonce.
Oui, mais bon, enfin, c'est Graffiti Rush 2, hein, je veux dire, voilà.
Oui, bien sûr.
À part cette annonce-là, qui vraiment, je pense que ce jeu risque de me faire craquer pour une Vita, mais voilà. Il y a pas grand chose, quoi. Il y a Final Fantasy avec des écolières. Ah oui, Agito, excusez-moi. Où on vous ressort Type Zero, mais avec des écolières. Et où on vous, sauf qu'on a oublié de sortir le précédent opus en Occident qui était vachement intéressant, mais c'est pas grave. À part ça, le truc, c'est que je sais pas ce que vous en avez pensé le TGS, mais moi, cette année, d'habitude, il y a des petits jeux comme ça qui me titillent. Alors certes, moi, il y a les sagas que j'aime bien, genre les Legend of Heroes, voilà, j'ai suffisamment dit tout l'amour que j'avais pour les Legend of Heroes, mais malheureusement, j'ai bien peur que cet épisode-là n'arrivera pas en Occident, donc bon, voilà. Et j'ai pas vu cette année, tu sais, les petits jeux un peu barrés qui font que j'apprécie le TGS, tu vois. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va se focaliser sur les gros, hein, donc MGS5 et Deep Down, enfin Deep Fell. Non, maintenant je l'appellerai comme ça, hein, je suis désolé, mais après ce que j'ai vu là, ça va pas être possible de prendre ce jeu au sérieux. Et donc on va commencer par MGS5 parce que il y a eu quand même pas mal de vidéos de gameplay assez longues. Et comment vous dire, on a vu ces vidéos, on est assez dubitatif. Donc je vais donner la parole à Mordren.
Ouais, un peu surpris d'ailleurs, parce que finalement, tout ce qu'on avait vu de MGS5, donc The Phantom Pain, hein, jusque-là a été assez intéressant et très très beau, parce que c'était quasiment des cinématiques qu'on voyait à chaque fois. Là, pour le coup, avec une vidéo en jeu, hein, c'est pas quelque chose de préparé comme à l'E3, où on l'avait vu la dernière fois.
Et deux vidéos même, une vidéo de jour et une vidéo de nuit. Sachant
exactement.
Que une des deux vidéos, c'était en fait le même stage que celui qu'on avait vu durant la première présentation du jeu. Voilà, petite
exactement.
Précision importante.
Donc, de nuit, sous la pluie, avec une infiltration de base militaire, et de l'autre côté, c'est deux jours, infiltration de base militaire. Bon, voilà. Et les deux vidéos font 12 minutes pour qu'on puisse bien se rendre compte du fait que c'est pas... C'est pas ouf.
Sachant qu'il y en a une qui est plus orientée action que l'autre aussi.
En effet. Alors bon, pour commencer par la phase de nuit, avec donc l'infiltration, on est donc sur une base militaire qui est gardée par 10-15 pecnos. Ce qui est assez étrange, hein, parce qu'on parle quand même d'une base militaire. Généralement, les bases militaires, c'est blindé de gens. Avec aussi l'idée que on s'infiltre, mais genre les doigts dans le nez, parce que les gardes sont très sont placés très loin les uns des autres, ce qui fait qu'ils peuvent pas vraiment se voir mourir et donc se protéger ou donner l'alerte.
Puis ils ont l'air très cons, mais bon, j'ai envie de dire ça, c'est la Metal Gear Solid Touch. Hein.
Exactement. Et le fait qu'on va chercher un prisonnier, le libérer, et on se rend compte que finalement ce prisonnier est entre deux poteaux, il est même pas attaché quelque part, il est même pas dans une cage ou quelque chose, il est juste là entre deux caisses, et on doit juste le libérer. Il est même pas menotté, ce mec. Enfin, c'est
Je précise, c'est censé être une base américaine, hein. C'est pas genre une base perdue au fin fond du Chili, tu vois, ou je sais pas où, n'importe quel pays d'Amérique du Sud, tu vois. C'est une base américaine. Je sais pas, moi, je vois une base américaine, je m'imagine un truc un peu plus sécure, tu vois. Enfin,
c'est clair. Voilà. Et du coup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? C'est quoi ce bordel? Et il y a même pas, enfin, genre, il doit y avoir deux gardes autour, mais genre à 15 mètres, quoi. Et là, tu te dis, ah ouais. C'est-à-dire qu'on le jeu est très beau, hein, y a pas de souci. Par contre, y a énormément de problèmes d'animation. On y reviendra. Mais en termes de crédibilité, il y a vraiment un truc qui va pas, quoi. C'est on te dit d'infiltrer une base américaine. Bon, il y a personne dedans. Le prisonnier, il aurait très bien pu se libérer tout seul. Bon. Il y a vraiment un souci de suspension d'incrédulité là derrière. En plus de ça, certes le jeu est beau, mais les animations sont juste, ça fait tellement daté, quoi. J'ai l'impression de voir Snake en fait sur PS2.
Ah mais c'est carrément ça. Hein. Je me demande même s'ils ont changé, tu vois. C'est vous dire à quel point ça fait dater, quoi. On n'a pas l'impression qu'ils ont changé depuis les épisodes PS2, en fait. Ce qui est assez problématique.
Avec les moyens actuels, enfin, je veux dire, ils vont nous dire en plus que le personnage a été motion capturé. Mais ça, enfin, moi, elle est où la motion capture? Enfin, j'ai l'impression que l'animation. Ouais, voilà, c'est ça. Là, franchement, l'animation, elle est faite avec un squelette qu'ils ont fait bouger eux-mêmes, hein. C'est pas possible autrement. Hein. Donc voilà. Et le gros problème derrière, alors ça sera sur la phase de jour surtout, c'est on nous vend un système action, un système de jeu action, et là, très franchement, j'ai l'impression que c'est tellement lourd que personne va s'en servir, quoi. C'est au niveau du réticule de visée, c'est imprécis au possible, il n'y a pas de système de couverture, et enfin, il n'y a pas ce qu'il faut pour être un bon TPS. Ça c'est clair et net. Et c'est ça qui m'a choqué en fait avec ce MGS5, c'est que un, les phases d'infiltration sont les doigts dans le nez, c'est-à-dire que tu peux le faire les yeux fermés, ou alors tu peux donner ça à un gamin de 5 ans, il y arrivera. Et les phases d'action sont juste décevantes parce que t'as l'impression que le pauvre mec derrière, il arrive pas finalement à utiliser son réticule de visée, tu sais, genre il sort de sa couverture, il vise, et puis 5 secondes après, ça y est, il a tiré. Ah ouais, ça, là on est quand même dans des standards de qualité qui n'ont rien à voir avec Splinter Cell. Enfin, c'est waouh, quoi. Enfin, j'étais assez surpris par la qualité globale de ce qu'on a vu en fait dans MGS5.
Alors, c'est clair, enfin, moi je ne comprends pas pourquoi on essaye de nous vendre un jeu où il sera possible d'y aller à la bourrin, alors qu'il n'y a clairement rien qui n'a été implémenté pour gérer ça. Enfin, en fait, j'ai l'impression de voir les anciens MGS. C'est con, hein, mais c'est ça. Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, et c'est valable aussi pour la phase d'infiltration, c'est que je me suis dit, c'est les précédents MGS en monde ouvert, en fait. Ils ont pratiquement rien ajouté. À part, à un moment donné, quand c'est repéré, il y a une espèce de ralenti, que Morden ne peut pas supporter, d'ailleurs.
Non.
Où tu peux utiliser ce ralenti-là pour endormir ta cible, en fait. Ou la tuer, enfin, tout ce que tu veux, quoi. Déjà, genre, ouais. Le jeu était pas assez facile, tu vois. En plus, on va te donner l'occasion de te rattraper, quoi.
C'est genre... Non, mais là, on est quand même dans un jeu d'infiltration qui te dit, ok, c'est pas grave si si tu te fais repérer, puisque de toute façon, si tu le tues ou si tu l'endors, de toute façon, tu seras pas repéré. Mais il est où le challenge, en fait, dans ce jeu? Enfin, je veux dire, autant dans Splinter Cell, on peut dire que c'est 13 actions, mais au moins quand tu te fais repérer, t'as 15 mecs qui tombent dessus, quoi. Enfin, là, il y a un vrai problème. Alors, soit ils ont fait quelque chose avec leur démo qui était juste en méga facile, et dans ce cas-là, on ne peut pas se rendre compte de la difficulté du jeu, soit le jeu est véritablement comme ça et c'est très alarmant.
Bah, le problème, si tu veux, c'est que, à mon sens, encore une fois, ils ont essayé de faire Metal Gear Solid en monde ouvert. Ils n'ont pas repensé le gameplay de Metal Gear Solid. Parce que Metal Gear Solid, pourquoi ça marche quand il y a trois clampins? Parce que ça a toujours été ça, Metal Gear Solid. Hein. Tu peux regarder tous les épisodes, ça a toujours été comme ça. Mais parce que c'était des niveaux fermés où tu avais un game design pensé pour. Alors, c'était pas non plus un game design de folie. Hein. Je dis pas le contraire, mais c'était pensé pour, tu vois. Et c'est pour ça que moi je me suis éclaté sur l'épisode PSP par exemple, même si c'était un épisode très limité techniquement, etc. T'avais un game design qui était pensé pour ce gameplay là. Et il y a des passages où tu pouvais galérer pour passer, quoi, même s'il y avait deux clampins, quoi. Parce que c'est des passages assez fermés, etc. Ce que là, on te met trois clampins, comme dans tous les MGS, mais dans un terrain immense. Forcément, vu que tu peux les approcher par tous les côtés, que tu peux faire ce que tu veux avec eux. À un moment donné, c'est un peu facile, quoi. Mmh. Et surtout que les mecs, j'ai pas l'impression que l'intelligence artificielle elle se soit spécialement améliorée, hein, depuis les précédents épisodes. Donc, moi, ça m'alarme, quoi. Enfin, ce que je vois là, ça a l'air d'être un jeu chiant. Non, je suis désolé, ça a l'air très chiant. La partie action, elle fait pas envie. Je veux dire, le mec, à un moment donné, il se poste sur une tour. Même pas genre en allongé, tu vois, il est accroupi, c'est une cible sur une tour, il y a pas un mec qui est foutu de descendre, quoi.
Ouais.
C'est et la partie gunfight, la sensation des armes, elles ont l'air inexistantes. À un moment donné, passage super choquant, le mec jette une grenade. Alors, je suis d'accord que par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans la saga MGS et classique, à savoir que les mecs, ils restent comme des cons devant la grenade. Mais justement, ça, c'est passable dans un jeu où on s'en fout de l'action, tu vois. Sauf que là, on m'a pas vendu un jeu où on s'en fout de l'action. On m'a vendu un jeu où il est possible, normalement, de faire de l'infiltration et de l'action, où les deux phases de gameplay sont censées être traitées sur un pilier d'égalité. Sauf que là, en fait, ouais, tu peux faire l'action, effectivement, sauf que le gameplay n'a pas été pensé pour. C'est dommage.
Ouais.
Et, enfin, je veux dire, et aussi, même par rapport à la phase infiltration, il y a un passage qui nous a tous choqués, c'est à un moment donné, le mec chope un gars par derrière, sauf qu'il y a son collègue qui est juste en face et qui réagit pas, tu vois. Bon, alors certes, il l'assomme juste après. Ça dure deux secondes, hein. Il y a même pas genre un point d'interrogation, enfin point d'exclamation sur son truc pour montrer que ah il se rend compte qu'il y a un truc qui se passe devant lui, tu vois. Enfin, c'est très, ça fait très MGS, sauf que pour le coup, comme on nous vend un gameplay un monde ouvert, etc. Enfin, ça choque, quoi. Enfin, moi,
ça manque de substance pour un monde ouvert. En fait.
Voilà. Non, mais c'est que le garde il s'est dit bon, c'est Snake, allez, je vais faire face à mon destin, je vais pas résister. Non, mais c'est abusé quand même. C'est-à-dire que là, c'est vrai que au niveau du gameplay, après moi, c'est la comparaison avec le Blacklist, effectivement, par rapport déjà aux animations de Snake, le fait, moi, ça m'a choqué aussi lorsqu'il se couche à terre et puis il se prend une rafale de balles. Enfin, après, ça doit être la facilité du mode qu'ils ont fait, parce qu'à un moment, il est couché à terre, il se prend une rafale de balles, je me fais tuer plus vite quand je fais de l'infiltration dans GTA V. Donc c'est pour dire, voilà. C'est vrai que c'est une déception. Après, donc moi je pense pas y jouer trop en action, donc le côté pas de mode de couverture ou autre, je ne pense pas que ça va me gêner, mais c'est vrai que c'est surtout au niveau des animations. Après, c'est très beau, certes, mais c'est au niveau des animations des personnages et de l'IA, là, c'est une vraie déception, ces deux vidéos.
Bon, après, je veux pas dire, mais le cœur de NGS, ça a jamais été son gameplay. Enfin, pour moi, ça a jamais été son gameplay. Oui. Pour moi, en termes d'infiltration, il s'est toujours fait défoncer par Splinter Cell, Finger is the News, il y a pas de souci, quoi. C'est la seule chose, c'est que moi, en fait, en termes de gameplay, ce que j'attends plus de ce Metal Gear Solid là, c'est le fait qu'ils reprennent certaines très bonnes idées qu'il y avait dans l'épisode PSP. Notamment il y avait toute une partie gestion, tu vois, de la guerre, où tu devais gérer tes troupes, enfin il y a vraiment une partie gestion que je trouvais intéressante, et pour moi en fait l'épisode PSP est mon épisode préféré, hein. Je vous explique, en termes de gameplay, pour moi c'est de très loin le plus intéressant, parce que justement comme ils avaient pas beaucoup de moyens techniques, ils ont dû réfléchir sur comment on va ajouter des petits éléments comme ça qui vont faire que le gameplay est intéressant. Et en fait l'intérêt de cet épisode là n'était pas tant sur l'infiltration, même si c'était pas mal pour le coup, que sur toute la partie gestion, que je trouvais vraiment pas mal, et j'espère qu'ils vont redévelopper ces éléments-là dans ce Metal Gear Solid 5. Ensuite, bon, qu'on s'entend bien, le cœur de Metal Gear Solid, ça a toujours été l'histoire, hein, donc...
En effet.
Voilà, je pense que ce qui déçoit ici, en fait, c'est que depuis des mois et des mois, on nous vend un super monde ouvert, etc. Que finalement, en fait, on se rend compte qu'ils, oui, ils ont fait un monde ouvert, sauf qu'ils n'ont pas repensé leur gameplay pour. Et ça, c'est dommage.
Ouais, et puis ce qui déçoit aussi, c'est le standard de qualité, puisque finalement, on attend une expérience presque next-gen, parce que bon, le MGS5, il est à cheval sur les deux générations. Et là, finalement, on se rend compte que MGS5 a été avant tout développé pour Xbox 360 et PS3. Ça se voit dans ce qui est proposé en fait aujourd'hui, avec donc ce monde ouvert un peu décevant et ce gameplay finalement qui est un peu à la ramasse, quoi.
Voilà. Bon, on va s'arrêter de s'acharner sur ce pauvre Metal Gear Solid. On va enchaîner sur Deep Down. Alors, on va essayer d'aller vite, hein, parce que honnêtement, fondamentalement, ce jeu n'a aucun intérêt. C'est juste par rapport à la super vidéo de teasing que nous avait fait Capcom à l'E3. Bon, on se doutait que c'était du bullshit, mais on pensait pas que c'était à ce point, en fait, tu vois. C'est-à-dire que...
Alors, Deep Down, on l'avait vu la première fois, c'était en février sur la conférence PS4. Hein.
Ah bon, c'était en février, ouais. Genre, moi, je sais pas, pour moi, c'était à l'E3, bon, peu importe. Bon... Je me doutais que, tu vois, c'était du bullshit, la vidéo qu'ils avaient montrée. Mais je pensais pas que c'était à ce point, parce que là, c'est vraiment moche, quoi. Ce qui est montré, déjà, est vraiment moche. Ensuite, le gameplay, c'est un espèce de Dark Souls du pauvre. Et déjà, Dark Souls ne plaît pas à tout le monde, mais alors là, je pense que ça plaira encore moins de monde, parce que c'est naze. Enfin, il y a aucune sensation, tu vois, d'impact... c'est mou, c'est chiant, quoi. Enfin, voilà, rien qu'à regarder, ça a l'air chiant, en fait. Ça a l'air lent, et déjà, encore plus lent que Dark Souls, quoi. Je sais pas si vous imaginez. Dark Souls, c'est déjà pas le jeu le plus speed du monde, mais encore plus lent que Dark Souls, quoi. Avec un gameplay chiant. Donc, voilà, ça a été un peu une grosse douche froide. Moi, ça avait titillé ma curiosité, quand même. Alors, en plus, ils ont annoncé que c'était un free-to-play, je crois. Donc oui. Encore plus de déception. Alors en plus, genre plus couloir tu meurs dans la vidéo qu'on a vue en tout cas, mais c'est genre encore une fois par rapport à Dark Souls. Dark Souls c'est pas le jeu le plus open du monde, tu vois. Même s'il y a pas mal d'enchevêtrement, tu vois, au niveau des décors, etc. Oui. Mais je veux dire, il y a quand même des décors assez grands finalement dans Dark Souls, même s'il y a pas c'est assez couloirisé en termes de progression. Alors que là c'est couloir mais vraiment couloir, quoi. C'est mauvais. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que Capcom, il va falloir qu'ils revoient leur copie là, parce que ça va juste pas être possible sur ce jeu, quoi. C'est mauvais. C'est mauvais à oublier.
Puis aussi, le présentateur de gameplay était vraiment pas doué, hein, ce qui n'a pas dû améliorer notre sentiment sur cette présentation là. Hein.
Voilà. Que ça s'attarderait sur des détails à la con, etc. Donc personne n'avait rien à faire. Ouais. Ensuite, donc nous allons maintenant parler du rachat de Atlus par Sega. Alors ça, c'est moi qui ai imposé cette news-là, parce que je voulais juste dire une chose. J'espère sincèrement que Sega ne va pas faire la même connerie avec Atlus que ce qu'ils sont en train de faire avec leur studio à eux, c'est-à-dire que Sega ne sort plus aucun jeu japonais en Occident. Phantasy Star Online 2, on l'attend toujours. Alors que je suis persuadé que ça marcherait, vu que c'est un free-to-play, que je suis persuadé qu'il y aura un public pour ce jeu-là. Les Yakuza, on n'en entend plus parler. Il y a aucun jeu de Sega Japon qui ne sort chez nous. Après, bon, le truc, c'est que, en fait, je me dis que de toute manière, quel que soit l'acheteur qui a repris cette boîte, j'aurais été déçu parce que Square Enix, j'ai un problème avec eux en ce moment parce que je pense qu'ils ont des attentes totalement surréalistes et que de toute manière, ils auraient tué un studio comme Atlus parce que Atlus n'est juste pas assez rentable pour eux. Capcom, vu la merde qu'ils ont fait avec Dim Down, là, je pense que c'est même pas la peine. Voilà, peut-être que c'est un moindre mal, j'en sais rien, mais moi ce qui me fait très peur là, c'est que Sega ces derniers temps, niveau ambition, les studios japonais, c'est juste pas ça quoi. Sega West, c'est autre chose, hein. Il y a des jeux qui m'intéressent énormément, soit ce qui se prépare chez Relic ou même les Total War, même s'il y a des problèmes de finition, n'est-ce pas? Sega Japon, par contre, en termes d'ambition, pour moi, c'est zéro, quoi. Et j'espère vraiment que la créativité du studio va justement être mise à contribution pour sortir un peu la tête de l'eau des équipes japonaises de Sega, parce que sinon, enfin... ça sera la mort d'un studio qui, pour moi, a sorti des jeux vachement originaux ces dernières années, comme Catherine, etc. Et ce serait d'une tristesse qu'une boîte comme ça coule, alors que justement, elle était dans le vert, et que c'est juste parce que sa maison mère a déconné qu'ils en sont là, quoi. Donc, on va maintenant passer à Pokémon.
Ouais.
Pokémon XY. Alors, pourquoi on vous parle de Pokémon XY aujourd'hui? Parce que Nintendo a pris une décision cette semaine. Mmh. Et cette décision, c'est que, enfin, ils ont pas pris la décision cette semaine, hein. Qu'est-ce que je raconte comme connerie, moi?
Mais ça fait un moment qu'ils l'ont pris.
Voilà,
en fait.
Mais on l'a pris cette semaine, en gros. C'est que, tout simplement, la 3D, dans Pokémon XY, elle ne sera pris que partiellement en charge. Et là, j'ai envie de dire,
c'est ça.
Alors, on a encore une fois la confirmation que la 3D chez Nintendo, voilà, c'est mort. Ils ont mis ça à la poubelle et que voilà quoi. Enfin moi c'est comme ça que j'interprète, ouais. Après je sais pas comment vous voyez mais...
En fait bon j'ai deux pistes d'interprétation. Il y a la tienne qui en fait qui remporte un petit peu mes suffrages mais on verra ensuite. Et la deuxième ça serait que potentiellement en fait la vue sur l'overworld, donc les... ce qui sera en 3D en fait c'est les combats et les menus. Donc les menus on s'en fout hein, fondamentalement, les combats encore heureux que c'est en 3D. Mais tout ce qui est donc à l'extérieur, donc c'est-à-dire votre personnage sur la map, dans les hautes herbes, etc., ça, ce sera pas en 3D. Alors, est-ce que ça serait parce que le personnage qui bouge et la vue qui défile, parce que vu le jeu est réalisé en 3D hein, intégralement, est-ce que c'est parce que c'est trop gerbant, en fait, en 3D? Bon, c'est la solution de la mauvaise foi, on va dire. Je suis pas sûr que ça soit pour ça. Après, moi, je suis assez déçu de voir encore une fois que Nintendo n'en a juste rien à foutre finalement de la 3D, que c'était un argument de vente à l'époque. Ils se sont rendus compte que c'était juste pas un argument de vente. Du coup, maintenant, voilà, ils passent à autre chose. Hein, Nintendo 2DS plus Pokémon, finalement très très peu en 3D. Donc voilà, on a finalement la fin de la réflexion de Nintendo par rapport à sa 3DS. La 3DS ne sert plus à rien en fait. Hein. L'effet 3D, on s'en tamponne. Bon, après, est-ce que les gens allaient vraiment jouer à Pokémon XY en 3D full time? C'est clair que non. Après, je pense que ce qui est le plus sympa, c'est les effets 3D dans les combats. Là, on est d'accord. Mais avec un univers qui a tout été refait en 3D, et là je parle de design, hein. L'effet 3D aurait pu être sympa de temps en temps, donc je sais pas, je comprends vraiment pas ce choix-là, hormis un choix, enfin je pense que c'est peut-être un choix financier en plus, si ça se trouve, qu'ils ont juste pas voulu mettre en place cet effet-là pour pas traiter en fait toute la map de Pokémon en 3D. C'est, à mon avis, c'est la seule solution que j'ai potentielle à cette annonce-là.
Ou alors ils avaient commencé, ils se sont rendu compte que ça marchait pas, ils ont dit bon, on arrête les frais.
Mais c'est possible que ce soit ça aussi, ouais.
Bon, après, on est d'accord que ça manquera pas grand monde, hein. C'est juste que,
non, enfin,
c'est assez surprenant, quoi. Enfin, à un moment donné, je veux dire, tu vends une console en 3D, je sais pas, à ce moment-là, qu'ils fassent une Nintendo 2DS avec le look de la 3DS, hein. Comme ça, ça coûtera moins cher aussi.
Ouais. C'est surtout que, c'est, en plus, c'est un jeu first party, quoi. Tu te dis que si même Nintendo se met à pas utiliser les fonctionnalités de sa console, alors à quoi ça sert ces fonctionnalités-là, quoi? De la même manière que la Wii U finalement est très très peu utilisée avec son gamepad sur même par les développeurs du Nintendo, c'est ça qui est absolument fou, c'est qu'ils balancent des fonctionnalités comme ça et puis au bout d'un an, un an et demi, on se dit ah bah finalement non, c'est pas intéressant, on va faire autre chose. Bon bah écoute, on attend la suite du coup, hein.
Bon, on va maintenant passer à une preview d'une alpha, et cette alpha c'est le dernier bébé de Clay Entertainment, Incognita.
Tout à fait. Donc Incognita, le nouveau bébé effectivement de Clay Entertainment. Donc là, Clay Entertainment, hein, à l'origine des Shank, de Mark of the Ninja, Don't Starve. Donc là, que des hits, que des bons jeux. Voilà, le changement. Déjà, je suis bien content de voir Clay Entertainment passé sur PC depuis Don't Starve. Enfin, au départ, j'étais un peu curieux de voir ce qu'ils allaient faire. Et puis avec Don't Starve, ils ont bien réussi la transition entre leur passage du XBLA jusqu'au PC. Et donc là, Incognita, je l'ai pris en alpha afin de voir déjà qu'est-ce que ça donnait. Donc j'explique un peu le jeu. Donc c'est de l'espionnage au industriel, donc c'est un jeu tactique en, on va dire, 2,5D, enfin 3D isométrique. Au niveau de l'alpha, par contre, c'est vraiment les mécaniques de base au niveau du tour par tour. Il n'y a pas évidemment tout qui est déjà implémenté. On n'a pas du tout de bribes au niveau du scénario. Il n'y a vraiment rien. Mais là, on a le visuel que moi je trouve magnifique déjà au niveau de la direction artistique. Après, les mécaniques de base au niveau du tour par tour qui sont vraiment intéressantes, c'est-à-dire qu'on s'infiltre dans une base, enfin dans une société concurrente, on va dire.
Ouais, parce que c'est pas non plus en mode Metal Gear Solid. Enfin, je veux dire, c'est des bureaux, quoi.
Exact. C'est des sociétés, c'est de l'espionnage industriel. On va hacker, par exemple, des ordinateurs. Ensuite, on va arriver dans une salle où on a des gardes. Donc là, après, on a un tour avec un certain nombre de cases où on peut avancer, donc c'est voilà, par case où on avance, on a des actions à faire, et ensuite on laisse la place à la sécurité, donc on met le petit switch pour dire c'est bon, j'ai fini mon tour, à vous de jouer. Donc c'est au fur et à mesure on avance, on fait ce qu'on a à faire, donc hacker les ordinateurs, voler des données.
Ça se joue tout seul ou ça plusieurs?
Donc là, ça se joue tout seul. Donc après, je ne sais pas s'ils vont implémenter un multi, mais pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment du solo. Par contre, on est avec deux personnages. C'est-à-dire que là, après, c'est vrai qu'il y a une possibilité d'implémenter du multi, mais on joue pour l'instant en solo avec deux personnages. En tout cas, dans l'alpha. C'est-à-dire qu'on a un agent spécial, donc c'est un humain. Et on joue avec, en fait, un robot, donc un espèce d'android très évolué, où là, on a la possibilité, enfin, on a tous les deux à peu près les mêmes possibilités pour l'instant. Après, je pense qu'ils vont implémenter des mécaniques, ouais, pour chaque personnage.
Rappelons que c'est une alpha, hein, donc c'est vraiment...
Voilà. Je trouve le jeu fun pour l'instant. Après, j'ai pas encore le sentiment qu'ils ont vraiment mis tout ce qu'ils avaient à mettre. Là, c'est vraiment le début.
Tu restes dans l'expectative de voir ce qu'ils vont faire, quoi.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que là, on est déjà sur quelque chose d'assez fun. Donc déjà, ça vaut les 15 € que j'ai mis. Je n'ai pas perdu mon argent. C'est déjà ça pour une alpha. Sinon, voilà, je reste dans l'attente de voir ce qu'ils vont faire. Les mécaniques de base sont assez intéressantes.
C'est possible vraiment de finir une mission sans se faire voir une seule fois, ou pour le moment, c'est pas possible?
Pour l'instant, j'ai assez de mal parce que les gardes sont vraiment placés d'une manière où on a la possibilité, mais là je n'ai pas encore réussi effectivement. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de se baisser, mais même enfin de se mettre en en mode infiltration, vraiment, de se baisser ou autre. Mais là, dans les salles, comme là, en fait, le rendu est généré un peu comme dans Don't Starve, de manière aléatoire. Mmh. Donc là, au niveau des salles, pour l'instant, j'ai pu faire quelques salles en mode stealth, mais après, je n'ai pas fini une mission, effectivement, sans me faire repérer une seule fois.
Et il n'y a pas, genre, un personnage qui a un costume, tu vois, qui peut s'infiltrer quelque part pour faciliter le passage de ses compagnons, etc. Il n'y a pas de personnage avec des capacités comme ça, par exemple?
Non, pas. Il n'y a pas encore de mécanique vraiment spéciale de ce type. Là, c'est vraiment des choses assez simples. Donc, on rentre, on hack des ordinateurs, on finit la mission et on va revendre les données à son mandataire.
Ok. Et en dehors de la phase d'infiltration, justement, il n'y a pas un méta-jeu derrière que tu dois gérer, justement, ou c'est vraiment pure infiltration en tour par tour?
Non, c'est vraiment de la pure infiltration. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment hacker les données. Donc après, il y a la possibilité ensuite de libérer. Voilà, là, voilà, par rapport au scénario, ça serait bien que ce soit expliqué ensuite, parce qu'il y a des zones avec des gens qui sont faits prisonniers. Donc là, après, au niveau de l'histoire, c'est pas du tout expliqué, donc.
Ouais, parce que ça, genre, c'est une société, on emprisonne les gens. Normal, voilà, tout va bien.
Là, il faudrait une petite explication, mais non, sinon, c'est une belle première impression. Là, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont implémenter. Il y aura des updates assez fréquents et le jeu va sortir de toute façon mi-2014, apparemment. Donc, c'est à voir, effectivement.
Ok, donc on reviendra vers toi quand le jeu sera un peu plus avancé pour voir
en effet, ça
progresse dans le bon sens ou voilà, s'il vaut mieux attendre.
Non, mais je fais confiance à Clay Entertainment. De toute façon, c'est là pour l'instant, depuis qu'ils Shank, au niveau de l'action, ils ont toujours su. Ça a vraiment été leur patte au niveau du gameplay. Ils ont toujours su, que ce soit avec l'action, l'infiltration ou la survie dans Don't Starve.
Ouais, mais justement, tu vois, la survie dans Don't Starve, sur la longueur, j'ai été assez déçu du jeu, finalement. Donc, bon,
j'attends de voir. Mais après, pour un petit jeu de ce type-là, moi, ce que j'attends, voilà, d'un Don't Starve, c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu es peut-être un peu déçu, mais je veux dire, sur le coup, c'est quand même des heures de fun et c'est un jeu qui n'est pas inutile dans l'univers vidéoludique.
Voilà. Donc, on va maintenant passer à notre jeu du moment. Alors, c'est aussi un jeu en tour par tour. C'est un jeu inspiré par le jeu de rôle Shadowrun, et ça s'appelle Shadowrun Returns.
It's 2054 and the world has changed. Gone to hell, more like. It started when magic came back. The awakening, some call it. You're rubbing elbows with orcs, elves, even trolls these days. Meanwhile, megacorps bleed the world dry, one board meeting at a time. They own just about everything. But not us. We're Shadowrunners. Mercenaries, operating in the margins, working dangerous jobs for the desperate and the powerful. Being a runner takes more than skill and street smarts. If you want to live long enough to get paid, you'll need a team, the right talent for the job. Maybe that's a mage, someone who can fry your enemies with deadly spells. A good decker can jack into the Matrix and bypass the toughest security without leaving a trace. Adepts, riggers, shaman, and don't forget your street samurai. Packing enough firepower and cyberware to take on a small army. Man, magic, and machine. Takes it all to survive in the shadows. Welcome to the sprawl.
Bon, je suppose que vous ne connaissez pas l'univers de Shadowrun, hein, un culte que vous êtes.
Très peu.
Alors, Shadowrun, grosso merdo, c'est de la fantasy dans un univers futuriste, dystopique, dirigé par des corporations. Voilà, hein, ça vous parle. Donc, il y a des orques, des elfes, des nains, mais avec des mégacorpos et Harrison Ford. Voilà.
D'accord, ça vous parle. Très bien.
donc... L'idée vraiment, c'est que vous allez jouer dans un univers assez sombre où vous êtes des Shadowrunners. Et les Shadowrunners, si vous voulez, ce sont un peu les seuls esprits libres qu'il peut y avoir dans cet univers, même si, comme tout le monde, hein, ils bossent pour les corpos. Hein. Mais bon, en fait, c'est ceux que l'on contacte quand on veut faire un job un peu risqué, tu vois. Genre faire de l'espionnage industriel, mais espionnage industriel en bas de, on attaque de front la corpo, tu vois, on chope les données et extraction, ce genre de truc. Donc le Shadowrunner, sa vie, son pain, son quotidien, c'est le sang, c'est la mort, c'est l'infiltration, c'est la vie dans la matrice, parce que t'as une espèce de méta-univers informatique, si tu veux, où tu peux t'infiltrer à l'intérieur. Et où il y a des mecs qui sont spécialisés dans ça, quoi. Et donc le Shadowrunner, bah voilà, quoi. C'est un peu le couteau suisse qu'on appelle quand on a un problème et qu'on veut le résoudre, quoi. Tout simplement. Et évidemment, c'est une activité très très dangereuse qui peut rapporter très gros, mais qui a un taux de mortalité assez élevé aussi, quoi. Oui, parce qu'en plus, généralement, hein, on affronte. Des corpos qui font des expériences pas très catholiques. Enfin, voilà, quoi. Vous voyez l'univers, déjà, je pense.
Ouais.
Donc, dans cet univers-là, vous allez jouer un Shadowrunner, au choix un homme ou une femme, hein, no sosai. Et vous commencez, en fait, le jeu, vous avez plus une thune, quoi. Les jours heureux sont terminés. Ces derniers temps, vous avez pas eu de bol, hein, malheureusement. vous avez enchaîné les mauvais contrats, etc. C'est vraiment la merde. Et le jeu commence dans la plus pure tradition de Shadowrun. Vous êtes au fond du trou. Vous êtes au fond du trou et vous dites un job maintenant. Il me faut un putain de nouveau job, sinon je vais pas m'en sortir, quoi. Et justement, là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes contacté par une connaissance. Un ami Shadowrunner, enfin un ami. On va dire que l'amitié dans le monde de Shadowrun, c'est très surfait. Donc, vous êtes contacté par une connaissance qui a un peu sauvé vos fesses par le passé, on va dire. Et donc, cette connaissance a un contrat pour vous. Mais un contrat assez spécial. Parce qu'en fait, cette connaissance est morte. Ouais. Et il commence comme ça. Désolé Coco, t'essaies de me parler, mais en fait, je suis mort. Je suis déjà mort. Et tu reçois ce message, c'est que, bah, tout simplement, il y a un switch sur mon cœur qui vient de s'activer et qui t'envoie ce message pour te dire que je veux que tu retrouves mon assassin et tu seras payé grassement via l'assurance que j'ai payée ces derniers mois pour... rembourser tes services. Oui, parce que hein, faut pas déconner, hein, même si c'est un pote, un Shadowrunner, ça ne bosse pas gratuitement, ça n'existe pas. Et donc, cette personne te présente un notaire, et l'idée, c'est que si tu veux toucher l'argent que le notaire doit te donner, eh bien, tu dois retrouver l'assassin de ton pote, régler son compte, et ensuite contacter le notaire via une ligne sécurisée afin qu'il puisse te transférer toutes les pépettes dont tu as bien besoin sur ton compte. Et voilà, c'est comme ça que commence Shadowrun. Alors déjà, ça vous plaît comme pitch?
Ah ouais, pas mal.
Voilà, pourquoi je vous ai fait tout ce pitch de base, c'est parce que tout le reste du jeu est sur ce ton-là. Et sur cette ambiance-là. Et c'est ça, à mon sens, qui va faire la force de ce jeu, c'est qu'on va vraiment retrouver toute la puissance de l'univers de Shadowrun, quoi. Tu sens bien le cynisme ambiant qu'il y a dans cet univers, tu sens bien qu'il ne faut jamais faire confiance à personne, tu sens bien que les mecs sont à peu près prêts à tout pour gagner des pépettes, et c'est ça qui est vraiment plaisant dans l'univers de Shadowrun, et pour peu que vous ayez apprécié l'univers du jeu de rôle papier, pour peu que vous appréciez les univers un peu sombres comme ça, je pense que si vous êtes attiré par les jeux à histoire, c'est un jeu pour vous. Mais vraiment, vraiment, c'est un jeu pour vous. En revanche, là où je vais nuancer mon propos, c'est quand on commence à arriver sur le gameplay. Parce que Shadowrun Returns, si vous voulez, c'est un jeu en tour par tour. Mais le problème, si vous voulez, que c'est un jeu en tour par tour, mais c'est pas un jeu en tour par tour qui a inventé le fil à couper et le beurre, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas très poussé, c'est assez basique. On retrouve les classes de Shadowrun, etc. Mais le problème, c'est que c'est assez limité, quoi, en fait. C'est vraiment... comment dire ? En gros, je pense que... franchement, si vous êtes amateur de jeux de rôle tactique ultra profond et que c'est ça que vous attendez de Shadowrun Returns, passez votre chemin. De même, si vous êtes amateur de jeux de rôle type Fallout, type Planescape Torment, type Arcanum Organized Sortilège, ben passez votre chemin aussi, parce que ce sont des rôles qui sont ce sont des jeux de rôle qui sont basés sur les conséquences de vos choix. Et finalement, dans Shadowrun Returns, même si, si tu veux, tu as la possibilité, via tes caractéristiques, d'aborder différents chemins pour avancer dans la trame du scénario, ça reste un scénario finalement qui est collé sur des rails, et où finalement tu vas faire des choix qui sont assez à la marge. C'est-à-dire que, en gros, à tel moment, tu vas choisir de buter tel ou tel personnage. Alors certes, c'est très bien écrit, hein. C'est pas le sujet. Quand tu vas choisir de buter tel ou tel personnage, tu vas peut-être même un peu réfléchir parce que tel personnage a peut-être des raisons, etc. Enfin bref. Mais c'est à la marge. C'est vraiment des choix à la marge. Ce n'est pas un jeu comme Arcanum où, en gros, tu peux tout résoudre par le dialogue, etc. Shadowrun Returns, c'est un jeu où tu vas avoir du combat. Tu vas avoir du combat en permanence et tu ne pourras pas y échapper. Donc vraiment, c'est un jeu de rôle assez classique dans le fond, mais avec une excellente histoire.
Mais du coup, est-ce que c'est pas trop linéaire ? Parce que, enfin, si on n'a pas vraiment de choix et de conséquences de choix, est-ce que justement ça a véritablement un intérêt pour le joueur ?
Ben oui, parce que même si ce sont des choix à la marge, joue un rôle quand même. Enfin, ouais. Comme je vous l'ai expliqué au début, c'est un jeu qui est extrêmement bien écrit. Le fait de faire ses choix, si tu veux, ça permet d'explorer l'écriture du jeu, en fait. L'intérêt du jeu, encore une fois, ce n'est pas tant ses choix en eux-mêmes, c'est vraiment la manière dont tu vas écrire l'histoire, quoi, si tu veux. Et c'est en là qu'est l'intérêt du jeu. Mais par contre, si vous cherchez vraiment un gameplay ultra profond, alors, le gameplay est pas inintéressant, hein, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai joué un chaman, j'ai pris beaucoup de plaisir à utiliser les capacités de mon chaman pour booster mon équipe, etc., faire des combos. Mais c'est clairement pas le jeu de rôle tactique le plus profond auquel j'ai joué, quoi. Qu'on soit clair là-dessus. Et au niveau des choix, c'est pareil. En gros, on te propose d'arriver par le chemin A, B ou C en fonction des capacités dont ton personnage dispose, quoi. Genre, si t'es un decker qui sent les mecs qui vont un peu dans la matrice du jeu, ben, tu vas plus t'infiltrer dans un bâtiment avec tes capacités informatiques, hein, tout simplement. Tu vas hacker le code d'entrée. Si tu as un personnage qui a plus la tchatche, comme je jouais, tu vois, parce que les chamans, en fait, toutes leurs caractéristiques sont basées sur le charisme, en fait, si tu veux. Donc, moi, j'y allais à la tchatche, tu vois, donc je rentrais en discutant avec les gens, etc. Si t'es plus bourrin, bah voilà, enfin, boum, tu rentres, voilà, point. Ouais. Mais encore une fois, c'est vraiment là pour explorer l'écriture du jeu, et l'intérêt principal du jeu, c'est vraiment cette écriture-là. Donc, si vous avez apprécié le pitch de base que je vous ai présenté, et que vous aimez les jeux à histoire, foncez. Vous allez prendre un pied monstrueux. D'autant plus qu'en plus de ça, il y a l'éditeur du jeu qui permet aux joueurs de proposer leur propre campagne. Et ça, c'est une excellente idée. Et que même le studio va sortir d'autres campagnes derrière. Et moi, franchement, les campagnes, je vais me jeter dessus comme un morphal parce que c'est tellement bien écrit que j'en redemande, quoi.
Et il prévoit d'en sortir régulièrement ou enfin on a déjà la date de la suivante ou
alors
c'est,
j'ai pas la date exacte mais la prochaine campagne c'est The Berlin Campaign qui sort en octobre là. D'accord. Avec la traduction du jeu en français justement, enfin en tout cas de la première partie.
Ah d'accord, il est pas encore traduit en français.
Non, il me semble pas qu'il est traduit en français encore là. La traduction d'accord. doit arriver. Okay. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein, parce que là, tu me poses une question, j'ai pas du tout vérifié. Mais il est pas traduit en français pour le moment, mais ça arrive. Hein. Soit vous pourrez y jouer en français. Okay. Hein. Par contre, je vous préviens, évidemment, la plupart des campagnes faites par les joueurs, c'est de l'anglais. Hein. Ça, faut pas vous leurrer là-dessus.
Oui,
moi, je vous conseille de maîtriser la langue de Shakespeare quand même, si vous vouliez profiter des capacités que le jeu offre en termes de campagne faite par les joueurs, quoi. Et ça,
il y en a déjà quelques-unes.
Oui, il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. D'un moment, j'en ai essayé une qui, comme le jeu est assez linéaire, ça s'appelle Jacked. Qui est vraiment bien faite, mais voilà. Ça, après, c'est assez linéaire aussi. J'ai pas encore, par contre, eu l'occasion d'essayer des campagnes où les joueurs essayaient de faire des trucs à embranchement. Et je sais même pas si c'est possible avec l'éditeur, pour tout vous dire. Hein. Donc,
d'accord. Okay. Ça donne bien envie, en tout cas. Tu nous as mis le à la bouche avec ouais, le scénario a l'air pas mal. Et sinon, au niveau, par contre, de la direction artistique, est-ce que...
Magnifique.
Est-ce que toi, ouais.
Alors, si vous voulez, le jeu, c'est... Alors, oui, je parle d'un jeu sans même décrire à quoi ça ressemble, parce que c'est un jeu, en fait, en 3D isométrique, comme Incognita, d'ailleurs. Les décors sont peints, si tu veux. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'ils ont très bien intégré les personnages en 3D dans le décor. Ce jeu, moi, je le trouve absolument superbe. En plus, là, du coup, ils vont profiter de la campagne de Berlin pour ajouter de nouveaux assets dans le jeu. Donc, ça fera encore plus de décors variés. Et je pense que sur le long terme, ça va faire un jeu vraiment absolument... On va avoir droit à des campagnes absolument grandiloquentes où les joueurs vont pouvoir profiter des décors faits par les devs. Donc, vraiment, moi... ce que je veux dire sur Shadowrun Returns, c'est si vous appréciez l'univers de Shadowrun, si vous appréciez les jeux à scénario, avec une pointe de tactique quand même, parce que la partie tactique est pas inintéressante. Hein. Ce que je veux juste dire, c'est que c'est très classique, quoi.
Ouais.
Il n'y a pas un gameplay ultra profond en termes de tactique, mais c'est sympa. Mais c'est clairement pas pour ça, à mon avis, que vous allez jouer au jeu. Le moteur du jeu, c'est clairement son univers, son histoire. C'est son ambiance aussi. Alors, j'ai pas parlé de la bande son, mais alors elle est pas non plus supra marquante par contre, mais elle accompagne magnifiquement le jeu, quoi. Il y a des personnages qui sont extrêmement bien écrits. On retrouve des personnages de l'univers de Shadowrun qui sont assez cultes aussi. Alors bon, ça faut voir la référence, mais je veux dire je pense que si vous avez joué au jeu de rôle papier et que vous appréciez certains personnages très connus, vous allez avoir une bonne banane à certains moments. Et voilà, ce n'est pas Fallout, ce n'est pas un Final Fantasy Tactics, c'est vraiment un jeu orienté histoire.
Et durée de vie peut-être ?
Une vingtaine d'heures de jeu, je dirais. Sachant que moi j'ai fait 26 heures, mais j'ai bien pris mon temps.
Oui, on te connaît là-dessus.
Alors par rapport à tout Kickstarter, etc., parce qu'il faut quand même évoquer le sujet. Oui. Franchement, si j'avais investi là-dedans, ce que je n'ai pas fait, je pense que j'aurais pas été déçu de mon investissement pour le coup, parce que c'est vraiment un jeu très sympa. C'est un jeu avec une histoire extrêmement prenante. Et vraiment, pour moi, c'est ça qui fait le cœur de ce titre, c'est son ambiance, c'est son histoire, et ça, il le fait extrêmement bien. Voilà. Par contre, encore une fois, c'est linéaire, ne vous attendez pas à quelque chose de très varié. Et passez votre chemin si vous voulez quelque chose de... voilà, c'est moi qui décide tout, enfin, c'est pas de l'open world, quoi.
Ouais, mais c'est aussi un jeu qui a beaucoup de potentiel grâce à sa communauté et à son éditeur de niveau et de campagne. Du coup, ça peut être très très intéressant à long terme de s'intéresser à Shadowrun Returns si on a envie d'avoir un jeu qui se renouvelle finalement perpétuellement grâce à la communauté, mais aussi grâce aux développeurs qui vont sortir d'autres campagnes plus tard, quoi.
Voilà. J'espère quand même voir peut-être des campagnes qui permettront un peu plus de choix, mais encore une fois, je suis pas du tout sûr que ce soit géré au niveau d'éditeur, donc on verra bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette semaine. Juste, je voudrais lancer une petite idée, donc ceux qui écoutent nos podcasts pourraient réagir. Nous sommes rencontrés récemment dans les rédactions de Game Info, n'est-ce pas ? Et nous avons évoqué la possibilité d'enregistrer les podcasts en direct. Donc, si possible, on aimerait bien savoir ce que vous en pensez, n'est-ce pas ? Sachant que, bon, quoi qu'il arrive, même, je pense qu'on le fera, de toute façon, parce que c'est un truc qui nous dit si bien. L'idée, ce serait vraiment de faire ça sur Twitch, en fait. Ouais. Donc, il faut savoir que nous, à la rédac, en fait, on se fixe des heures d'enregistrement. Donc, on essaiera de communiquer les enregistrements le plus tôt possible. Mm-hmm. D'ailleurs, il faudra qu'on reprenne au moins le compte Twitter du site.
Ouais.
Et donc, voilà. A priori, donc, l'idée, ce sera vraiment que chaque semaine, on enregistre, on annonce l'heure d'enregistrement. On lance à Twitch, on enregistre, sachant que vous vous rendrez compte que entre le produit fini et l'enregistrement, des fois il y a des différences parce qu'il y a
sachant
du travail,
qu'il y aura
il y a du travail de montage
aura...
derrière.
Ouais. Sachant qu'il y aura certainement aussi une interaction en fait avec les viewers, ouais. S'ils ont envie de réagir au sujet dont on parle, ça sera aussi l'occasion de bah, de vous connaître un petit peu plus et puis d'avoir des discussions parfois endiablées sur certains sujets si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit ou si au contraire vous avez des trucs à rajouter.
Oui, parce que si vous voulez, c'est vraiment quelque chose qu'on veut développer parce que à la rédac de Game Info, je pense que vous êtes rendu compte, on a tendance à être d'accord. Et je pense que pour le coup, avoir un chat en face qui va nous dire qu'on raconte de la merde, ça serait pas mal aussi. Bon, après, on va être là, ouais, ils font chier là, toujours dire qu'on là. Mais franchement, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer. De toute façon, enfin voilà, on a vraiment envie de faire participer les gens à l'enregistrement du podcast. Je pense que ça peut rajouter un petit plus non négligeable au podcast. Donc voilà, réagissez, puis de toute façon, ça se fera, je pense.
On en reparlera.
Voilà, voilà. Allez, yes. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Désolé, pas de point de culture cette semaine. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.